بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك في جنات مكرمون شيخان إسلام toutes les louanges reviennent à Allah رب العزة qui nous choisit ce soir pour prendre part à ce programme. Quand Allah donne tawfiq à un serviteur pour accomplir une bonne action, c'est une preuve qu'Allah veut du bien pour cette personne. Et il n'y a pas plus grand bienfait qu'Allah puisse accorder à un serviteur que de lui ouvrir une porte de bienfait, de lui donner la possibilité d'accomplir une bonne action. Et ça, ça fait partie de la hidayah, de la guidée d'Allah Azza wa Jal. C'est la guidée qu'Allah nous accorde tous les jours. Maintenant, quand Allah te met sur le droit chemin, et te permet d'accomplir donc cette bonne action, il y a l'autre partie qui t'appartient. La partie qui t'appartient, c'est l'orientation du niya, de l'intention. Allah t'amène vers ce chemin et te facilite la pratique de telle bonne action. Maintenant, essaie de bien paramétrer le niya, l'intention. Fais en sorte que quand tu viens dans cette assemblée, quand tu vas lire le Coran, quand tu vas faire telle ou telle action, que intérieurement tu ne recherches que le contentement d'Allah. Ta seule himma, la seule chose qui t'est importante, c'est que à travers cette bonne action, Allah soit satisfait de toi, Allah te rétribue et Allah te pardonne tes péchés et qu'Allah t'accorde le paradis. Et quand tu accomplis cette bonne action, fais comme si que c'était la dernière des bonnes actions que tu allais accomplir avant de mourir. Fais comme si que c'était la dernière chance, la dernière bonne action que tu pouvais faire juste avant de mourir. Ainsi, tu vas t'appliquer. Et quand tu accomplis cette bonne action, essaie de réaliser que cette bonne action-là, tu vas la retrouver dans ton mizan, dans la balance, le jour de Qiyama. Et ainsi, tu vas t'appliquer pour la faire correctement, avec beaucoup de cœur, avec beaucoup d'attention, parce que tu sais qu'en fonction de l'intention, en fonction du degré d'implication, en fonction de cette lumière intérieure qui est l'amour d'Allah que tu mets dans cette bonne action, ben cette bonne action aura beaucoup plus d'ampleur et plus de poids dans la balance le jour de Qiyama. La rétribution d'une bonne action n'est jamais déterminée, n'est jamais fixe. C'est pas comme si je dis que ça, c'est un litre d'eau égale un kilo, que ce soit à La Réunion, en France, ailleurs, c'est pareil. Non, de l'au-delà, c'est autre chose. On ne peut pas dire que 4 rakats de salat al-isha, ça vaut, je dis un chiffre hasard, 7500 hasanat. Aucunement. Il n'y a pas de mesure, il n'y a rien pour quantifier le taux de récompense d'une bonne action. Parce que tout ce qui est al-jaza, la rétribution, c'est quelque chose qui est propre à qui ? Propre à Allah. Il n'y a pas un hadith qui te dit que quand tu fais ça, tu as tant nombre de hasanat. Pour quelques actions comme ça, oui, il y a des détails. Comme celui qui va lire 100 fois, « La ilaha illallah, wahidahu la sharika, lahu al-mulk, lahu al-hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadir » le matin. Là, c'est précisé combien de péchés sont enlevés, oui, de son livret de compte. Combien de hasanat ils sont greffés. Ou alors la personne qui lit un salat ala nabi, comme on appelle ici le durud sharif, ben 10 hasanat, 10 péchés effacés et 10 grades augmentés. Pour certaines actions, il y a une quantité, mais cette quantité-là, est-ce qu'on peut l'imaginer? On ne peut pas la concevoir. Ce sont des notions en rapport avec l'au-delà. Et en finalité, la rétribution, elle est dans les mains d'Allah. Mais plus tu vas y mettre de la bonne intention, de l'effort, de la concentration, de l'implication, de présence de cœur, plus tu vas essayer de ressentir l'amour d'Allah dans tes sujouds, dans tes prosternations, plus tu vas faire de sacrifices pour venir à cette masjid pour prier, ou quelle que soit la bonne action, ben cette bonne action elle aura encore plus de récompense, elle aura encore plus d'ampleur. Et je vais vous donner un exemple. Vous avez remarqué, ces derniers temps, on ne fait plus tafsir. Nous sommes dans quel mois, Ya Nabil? Il reste combien de jours? Ceux qui n'ont pas démarré le 6 Shawwal, ou ceux qui ont commencé un ou deux, il faudra être de garde là, le week-end. Hein? D'accord? On ne peut pas laisser ça passer. Hein? Celui qui laisse ça passer, c'est Khassar. Qu'Allah nous permette de compléter, Inch'Allah. J'ai lu Kalam Ulama, ça c'est la parenthèse dans la parenthèse. C'était bien écrit, ça. Un savant contemporain qui a dit, qui abordait justement la thématique de 6 Shawwal, la façon de l'accomplir. Et bien sûr, il reprend les avis des divers savants qui disent qu'il n'y a pas d'obligation à le faire tout de suite après le Eid, ni à les faire ensemble, on peut les séparer. Mais ce savant, son avis, c'était qu'il est mieux de le faire tout de suite après le Eid. Parce qu'Allah aime le mu'min qui s'empresse, qui rapidement répond présent. C'est-à-dire que celui qui fait le 6 Shawwal mubasharatan, immédiatement après le Eid, on va dire c'est un petit quelque chose en plus. C'est celui qui répond en premier à l'appel d'Allah Azza wa Jal et qui ne laisse pas le temps passer. Parce qu'après le temps qui passe, c'est souvent comme ça. Compte à rebond, on voit quelle date islamique on est, on calcule Makka, c'est quelle date, ici c'est quelle date, donc je prends une marge. Si là-bas c'est déjà Dhul-Qa'ada, ici c'est plus Shawwal, je l'ai peut-être perdu. Donc voilà, c'est bien de le faire plus tôt. J'allais vous dire autre chose, oui. On est donc à la fin du mois de Shawwal. Et dans, on va dire, un mois et demi, à peu près, ce sera le Eid al-Adha. Le Eid al-Adha, c'est synonyme de Qurban, de Udhiya, du sacrifice. Et ça, on en avait parlé l'année dernière, à peu près cette période. Il y a beaucoup de gens qui se suffisent de très peu, qui se contentent de très peu d'efforts concernant cette action qui pourtant est une action extrêmement importante. Et c'est l'héritage de notre prophète. De quel prophète? Ibrahim alayhi salam. Aboul Anbiya, le père des prophètes. Et le imam au tawhid, celui qui symbolise le tawhid, l'unicité d'Allah azza wa jal, et qui est un exemple également de tarbiya, d'éducation islamique, tout comme Luqman alayhi salam, mais dans sa relation avec son fils, qui s'appelait Ismaïl alayhi salam, et dans sa soumission à Allah azza wa jal. Ce qui est très fort, vous savez, dans la vie de chaque prophète, il y a quelque chose de puissant dont on doit s'inspirer. Et dans la vie d'Ibrahim alayhi salam, ce sont des épreuves. Mais les épreuves d'Ibrahim alayhi salam, c'était très lourd. C'était des épreuves terribles, presque insurmontables. À part Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, à part le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on peut dire qu'aucun prophète n'a eu d'épreuves aussi lourdes et aussi fréquentes et aussi rapprochées que Ibrahim alayhi salam, parce que tout était basé sur des sacrifices. Sacrifier sa femme. Comment ça, sa femme? En la laissant dans le biwadin ghayri dhi zari'in 'inda baytika al-muharram, en la laissant dans le désert. Alors qu'il n'y avait personne. Qui dit désert dit sécheresse, manque d'eau, manque de nourriture, brigands, voleurs et animaux sauvages, hein, le soir. Mais c'était l'ordre d'Allah. Et le grand mujahada, c'est de faire passer l'ordre d'Allah avant ce que nous voulons pour notre cœur, pour notre nafs et ce que nous concevons comme quelque chose de bien. Et il l'a fait. Et par ce sacrifice, Allah a accordé des ouvertures, et parmi les ouvertures, l'eau qu'on boit, l'eau de Zamzam. Et d'autres choses encore. Sacrifice de son fils, Ismaïl alayhi salam, l'histoire est connue. Et il était prêt à sacrifier son fils et à faire passer l'ordre d'Allah avant l'amour qu'il avait pour son propre enfant, alors que cet enfant, il l'attendait depuis très longtemps. Selon certaines sources, il avait quel âge? 96. Il me semble que c'est 82, hein, à vérifier. 96, à vérifier dans l'histoire des prophètes, mais donc à un âge très avancé qu'Allah lui a accordé, Ismaïl alayhi salam. Donc c'est pour nous source d'inspiration. C'est vraiment le mujahada, le sacrifice qu'on fait pour Allah Azza wa Jal. Ainsi donc, ce udhiya, ce sacrifice, ben vraiment doit occuper une place importante de nos cœurs. Ikhwan fillah, quand on dit sacrifice, ça veut dire que tu vas consacrer une partie de tes biens pour Allah. Et tu vas consacrer une partie de tes biens pour Allah alors que cet argent est mahbouban indak et que c'est un bien que tu aimes et que tu en as vraiment besoin. Quand il s'agit de l'animal, à une certaine époque, les gens avaient des animaux. Donc, sacrifier un animal auquel ils étaient attachés, on sentait le sens du sacrifice. Nous n'avons plus d'animaux. Hein, on élève, enfin, certains encore, mais sinon c'est très rare. Du coup, c'est un sacrifice financier. Et on a besoin de ressentir ce sacrifice pour Allah. À une certaine échelle, comme Ibrahim alayhissalam a sacrifié son fils pour Allah, on se doit de sacrifier quelque chose pour Allah. Il faut que ce soit quelque chose qui pèse sur notre cœur. Et malheureusement, beaucoup de gens, même des personnes qui ont plus ou moins les moyens, en tout cas qui ont les moyens pour faire un chariot de 300 euros par mois. D'accord ? Ce qui est la moyenne. Et ils vont consacrer que 35 euros pour le sacrifice, l'udhiya. Ils vont mettre 35 euros dans une enveloppe et ils vont envoyer à Madagascar. Et ils vont dire que là-bas, les gens sont pauvres, ils ont besoin. Très bien. C'est une réalité. Mais ça ne t'empêche pas, au mois de janvier, d'envoyer 35 euros là-bas aussi. Pour faire un petit sacrifice, donner à manger un orphelinat et tout. Subhanallah. Ni'ma. Une bonne action. Mais là, ce qu'Allah attend de toi, c'est un sacrifice. Et quand tu mets 30 euros, 40 euros, tu envoies à Madagascar, en Inde, ou peu importe hein, le pays, honnêtement, tu n'as pas fait de sacrifice. Tu n'as pas fait de mujahada sur toi-même. Parce que 30, 40, c'est à la portée de tout le monde, presque tout le monde. Alors que celui qui, et là on voit la différence de mujahada, la personne qu'on lui dit qu'un animal coûte 250. Et on en avait parlé la dernière fois. Je dis que si vous voulez 250, je vous trouve à 250. C'est pas un problème. 250 euros un cabri. Ou une brebis. Et il se dit que je vois, là on est le 27, 26, 27. Bon, quand on rentre dans la dernière décade, ça c'est notre décade à nous, avant le 6, avant que les allocs soient versés, je dis mais c'est pas possible. Je peux tirer 50 euros, mais 200, ne me dit 250, plus livraison, la nourriture et les frais de boucher et ainsi de suite, 300. 300, 350, j'ai pas cet argent, je n'ai pas cette somme. Ok, tu ne l'as pas. Et Allah te pardonne si tu ne fais pas de toute façon, parce que tu n'as pas les moyens. Mais si tu veux faire vivre ce sacrifice, le ressentir dans ta vie et en tirer les profits spirituels et la lumière qu'Allah met dans cette bonne action, commence dès le mois de Rajab. Le mois de Rajab, tu tires 40 euros. Tu mets dans une enveloppe. Allez, 50. Le mois de Sha'ban, tu retires 50 euros, tu mets dans une enveloppe. Ramadan, 50. Shawwal, 50. Dhul-Qa'da, 50. Il y a tous les mois, pendant 5 mois, tu as 50 euros. Ça te fait 250. C'est cette enveloppe-là. Et quand tu achètes l'animal, c'est vraiment là le mujahada. Tu dis, ça c'est pour mon Rabb. Ça c'est pour mon Seigneur. Ça c'est le sacrifice que j'ai fait sur moi pour Allah Azza wa Jalla. Ikhwan fillah, on a vraiment besoin de ressentir la puissance des bonnes actions. Ça c'est quelque chose qui aura un retour extrêmement profitable. Qu'est-ce qui fait que nous ne trouvons plus la lumière, le halawatul iman, la douceur de la foi dans nos bonnes actions? C'est parce qu'on n'y met pas du cœur, pas de concentration, pas de dévotion, et on ne fait pas grand-chose comme sacrifice. Qu'Allah nous accepte. On disait donc que c'est un ni'mat d'être présent ce soir avec vous, et qu'on soit ensemble pour étudier les versets de la sourate al-Ma'arij. Et la semaine dernière, bi'idhnillah, On avait lu Ulaika fi jannati mukramun, qui était le verset de conclusion des 9 qualités qu'Allah Azza wa Jal avait citées concernant les gens, les mu'mines qui avancent correctement vers lui et qui ne sombrent pas dans les épreuves ni n'oublient pas leur Seigneur dans les moments de bonheur. Alors que ces deux manquements, malheureusement, on va dire que ces deux manquements font partie de la nature humaine. Et ceux qui ont réuni ces 7 qualité, ulaika fi jannatin mukramun, ceux-là seront honorés dans des jardins. Je voulais juste vous lire le tafsir de As-Sa'di rahimahullah. Yaqulu ay qad awsala Allah lahum min al-karamati wa an-na'im al-muqim ma tashtahihi al-anfus wa taladhdhu al-a'yun wa hum fiha khalidun. Qu'Allah leur a accordé, qu'Allah leur a permis d'accéder à un niveau de bienfait et de générosité divine qui dépasse tout ce que l'être humain peut imaginer, c'est-à-dire le paradis. De quelle façon ? Parce qu'Allah leur a donné tawfiq d'accomplir des bonnes actions parmi al-ibadat al-badaniya, les actions qu'on fait avec le corps. Il y avait l'exemple de la salah. Les actions qu'on accomplit avec le cœur, car khashiyatillah, comme la crainte d'Allah, les bonnes actions qu'on accomplit avec eux, avec les biens, et il y avait parmi ces qualités ceux qui viennent en aide à leur prochain, les croyances pures de tawhid qui sont profitables à l'homme. Et parmi ces a'mal en rapport avec la yaqin, la conviction et la confiance en Allah, c'est ceux qui sont persuadés de retourner vers Allah Azza wa Jal. Wal akhlaq al-fadila, et avec également le meilleur des comportements, wa mu'amalati khalqihi, et l'honnêteté envers son prochain. C'est en réunissant toutes ces qualités qu'Allah leur a accordé le Jannah. Action extérieure, action du cœur, croyance pure et sincère, amal avec nos biens, venir en aide à son prochain, bon comportement et honnêteté dans les transactions, dans une façon de travailler avec notre prochain. Il manque quelque chose ? Wal-iffa. Al-iffa, c'est se protéger, se préserver par excellence de l'adultère et par analogie de tout péché, de toute, on va dire, de toute faiblesse de la foi qui nous fait glisser vers nos passions et nous font oublier Allah Azza wa Jal. Ensuite, on a un couplet, on a des passages où Allah Rabbul Izza reproche très clairement aux Quraysh leur éloignement, le fait qu'ils n'écoutent pas Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils s'en éloignent alors que quoi ? Alors qu'ils le voient. Alors que la révélation descend sur lui devant eux. Et malgré ça, ils refusent de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On lit le verset, « فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْتَعِينَ » Qu'ont donc ceux qui ont mécru à courir vers toi le cou tendu. Bon, après, ce sont des expressions en arabe qu'ils ont essayé de traduire en français, mais ça ne donne pas une bonne traduction. عن اليمين وعن الشمال عزين, de droite et de gauche, venant par bande, أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم, chacun d'eux convoite-t-il qu'on le laisse entrer au jardin des délices. كلا إنا خلقناهم مما يعلمون, mais non, nous les avons créés de ce qu'ils savent. Ibn Kathir rahimahullah dit, يقول تعالى منكرا على الكفار, Allah Azza wa Jal révèle des versets qui condamnent l'attitude des kuffars. Et ikhwani fillah, prenons un peu de recul et analysons la puissance et la valeur de ces versets pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba. Ils donnent du haqq, ils donnent la vérité aux gens. Ils exposent la lumière aux gens, à ces Quraysh. Et ces personnes-là, un, ils refusent, et deux, ils se mettent à se moquer du prophète sallallahu alayhi wa sallam en demandant où est ce qiyama, quand est-ce que ce châtiment va-t-il arriver, et ainsi de suite. Ils vont même jusqu'à l'insulter, là on est dans la période Makki, hein, l'insulter, essayer de l'humilier, le porter atteinte physiquement, et ainsi de suite. Le plus grand encouragement pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans et les musulmans à cette époque, et pour tout musulman à toute époque, quand on est entouré de personnes qui n'arrête pas de critiquer la religion, qui n'arrête pas d'essayer de rabaisser l'islam en mettant en avant quelques événements tragiques qui ont eu lieu et en cataloguant l'intégralité du monde musulman comme étant des intégristes, des terroristes, ainsi de suite. Bref, le discours qu'on connaît, on ne va pas le dire ça ici, vous l'entendez suffisamment à la radio et vous le voyez suffisamment à la télé. Cela ne doit pas nous affecter, car à l'époque même du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'ils étaient à Mecca, ils étaient autour de la Kaaba, en présence de An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et que l'ange Jibril faisait encore ce relais des cieux vers la terre pour venir apporter le wahi, et que le Coran était révélé, à cet instant, à cette époque déjà, les Quraysh traitaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam de menteur, d'imposteur, de sorcier, de personne qui a le cœur rempli de cupidité, qui veut conquérir Mecca et qui a de mauvaises intentions. Donc les critiques, ça fait partie de la sunnah d'Allah. Est-ce que le prophète était affecté? Par moment, oui. C'est pour ça qu'Allah lui demandait « Fasbir sabran jamila », verset qu'on a eu l'occasion d'expliquer. Et quand Allah reproche aux mushrikin leur attitude, ben ça c'est un encouragement, parce que les paroles des hommes restent des paroles de créatures. Mais quand c'est le Rabb fawqa sab'i samawat, quand c'est le Seigneur au-dessus de sept cieux qui révèle et qui approuve, ou plutôt qui désapprouve le comportement des ennemis et qui met en garde ces personnes parce qu'ils s'éloignent de la vérité et qu'ils se rapprochent du Jahannam, ben voilà la justification qui vient de Dieu. Voilà donc la révélation qui permet aux mu'mines d'être apaisés, même si tout le monde les pointe du doigt, et de ne ressentir aucun complexe, et cela soulage la tristesse. Et ce genre de verset, nous devons le prendre nous aussi. Quand on voit des gens qui se détournent de la religion et qui font ce qu'ils font, on doit se dire qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était vivant autour de lui-même, ses propres oncles lui ont tourné le dos et les personnes l'ont insulté, d'autres lui ont jeté des pierres à Taïf, et il a réalisé les différents épisodes de la sira dramatique que nous connaissons. Donc ces versets-là, nous devons être capables de les comprendre et de les faire vivre nous-mêmes dans notre vie. Et cela est un encouragement qu'à l'époque, par exemple, c'était pareil et que Allah a décrété que ces gens-là, ceux qui se détournent de la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, sont dans la perdition, même s'ils sont riches et aisés. Parce que toutes les personnes qui critiquaient l'islam à Mecca, c'était des notables. Ce n'étaient pas les esclaves ou les pauvres qui critiquaient le prophète sallam, c'était les notables, les chefs de tribu, les zu'ama, les personnes qui prenaient les décisions, les personnes qui avaient les moyens, les personnes qui avaient le mulk, qui avaient le pouvoir. Donc, si à notre époque, des personnes qui ont les mêmes, entre guillemets, qualités, les mêmes attributs, ben, s'ils ont le même comportement, on a juste à réaliser que c'est la sunnat d'Allah azza wa jal. Et je pousse un peu plus loin la réflexion. Nous ne devons rien attendre dans ce dunya en termes de justice. Parce que si justice il devait y avoir dans ce monde, Allah aurait déjà rétabli la justice par rapport à chaque volm, chaque oppression qui avait été faite sur chaque sahaba. Bilal ibn Rabah n'a-t-il pas été insulté, frappé, torturé? Ben là, bien sûr que oui. Ben, est-ce qu'il a eu sa justice de ce monde? Et est-ce que les tortionnaires ont été châtiés devant lui et cela a rempli son cœur de joie? Non. Et ainsi de suite, Ali Yasir et tous les sahaba, ridwanullahi alayhim ajma'in, et par excellence, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que Allah l'a gratifié par la vision de châtiment de ses ennemis devant ses yeux pour le réconforter du tout? Ça veut dire que si, dans la sunnah d'Allah, il devait y avoir la justice dans ce dunya immédiatement, quand quelqu'un te fait du mal à toi ou à ton dîn, ben Allah l'aurait déjà fait à Mecca ou à Madina Munawwara, c'est-à-dire du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela ne s'est pas produit. Au contraire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu ses anciens ennemis, certains se sont convertis à l'islam, comme Abu Sufyan, d'autres sont morts dans la perdition, comme Abu Jahl et Abu Lahab, et d'autres ont eu le pardon du Prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de la conquête de Makkah, idhabu fa antum tulaqa, quand le Prophète leur a pardonné, comme Yusuf al-Islam avait pardonné à ses frères. Donc, quand nous constatons autant d'injustices, il ne faut surtout pas se dire que pourquoi est-ce qu'Allah ne règle pas le problème. Quand on voit ce qui se passe en Syrie, quand on voit ce qui se passe en Chine, et que même les médias français en parlent, on peut se dire, mais qu'est-ce que les grandes instances, tous ces shérifs-là, il y en a des shérifs dans le monde. Quand il y a un petit truc, même quand il n'y a pas, en Libye, ils y sont allés et ils ont fait la justice. En Irak, ils sont partis, ils ont tout détruit, et ainsi de suite. On ne fait pas de politique, hein, mais on a bien vu qu'il y a des grands shérifs. En général, c'est quand il y a des musulmans qu'ils agissent bien. C'est coïncidence, on va dire, d'accord. Mais qu'est-ce qui coûte à ces personnes des casques de toutes les couleurs, bleues ou peu importe la couleur, ou ceux qui sont à l'ONU, ainsi de suite, la Cour des droits de l'homme, la et ainsi de suite, de dire que vous voyez le génocide qui a lieu en Chine. Voyez les gens, voyez ce qui se passe, les mosquées qui sont fermées, ces musulmans qui sont dans des camps de concentration. Mais on se rend compte que les choses ne bougent pas. Ça n'intéresse personne. On le lit, on dit que, ah voilà, une situation dramatique, et puis on tourne la page, on passe à autre chose. Wallah musta'an. Quand on voit ce qui se passe en Syrie, avec l'utilisation très probable d'armes chimiques, la même chose dans n'importe quel pays occidental, on aurait déjà 80% des armées du monde qui seraient présentes. Ça se passe d'un pays musulman, Allah musta'an. Et ainsi de suite. La Palestine, il n'y a même pas besoin d'en parler, Allah musta'an. Et ça, c'est des situations dans des pays. Maintenant, des situations individuelles. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Dramatique, oui, non. Un imam. Maintenant, moi, je ne rentre pas de son discours. Qu'est-ce qu'il dit? Son discours est bon et pas bon? Ça lui appartient. Mon frère. C'est mon frère en islam. Bas. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Et il prêche, il officie, il est imam. Il invite vers Allah. Et que cette personne sort de sa mosquée, il lui tire dessus ainsi qu'une autre personne, et qu'ils sont au sol, ils sont hospitalisés, ainsi de suite. Ça fait la une. Jusqu'à cet après-midi, j'ai été chercher dans tous les grands médias. Je ne vais pas vous citer. Sur Internet, les médias français les plus connus, ça ne fait pas la une. Ça ne fait pas la une. On va plus parler de France, États-Unis ce soir, football féminin, wallahu musta'an, que de ça. Non mais c'est choquant et c'est blessant. Je ne vais pas dire que c'est humiliant, parce que notre izza, notre honneur est dans les mains d'Allah. Ce n'est pas dans les mains de ces gens-là. Et je suis intimement persuadé que le peuple français a mal pour ce qui s'est passé. Le français, le peuple n'est pas raciste. Le peuple n'est pas islamophobe. Le peuple n'est pas xénophobe. Mais on en fait des gens mauvais. Parce qu'ils sont entourés de médias, que ce soit des journaux imprimés, des magazines, ou des reportages, ou la toile sur Internet, où on leur balance des discours de haine et de mise en garde contre l'islam, et ils le vivent, ils l'entendent, ils le voient au quotidien, et l'être humain est influençable. L'être humain est influençable. Si vous voyez des publicités sur la dengue, partout, vous entendez, vous voyez ainsi de suite, ben vous voyez un moustique, qu'est-ce que vous faites? Vous avez un lavage de cerveau concernant la dengue, avec des grandes affiches 4x4, et la radio, et Internet, plein de pubs. Mais il est normal que quand vous voyez un moustique, tout de suite vous avez peur, c'est le moustique de la dengue. Ce moustique-là, c'est lui qui porte la dengue, il va m'atteindre, moi, mon épouse et mes enfants, il faut que je le tue. C'est comme ça, l'être humain fonctionne comme ça. Et donc, le peuple, je suis persuadé qu'ils ont été choqués par ce qui s'est passé. Que ce soit un imam, ou que ce soit un évêque, ou que ce soit un rabbin, qui sort d'un lieu de culte, c'est-à-dire un endroit où on ne produit pas de l'argent. Et je ne parle pas des aqaïd, là, je ne parle pas des croyances. Mais c'est un lieu où les gens viennent se recueillir, ils ont besoin de spiritualité. Ce n'est pas un endroit où on va répandre le sang, où on va tuer une personne. Le peuple a été choqué par ça. Mais les médias ont décidé de ne pas en parler. Les médias ont décidé de ne pas accorder de l'importance. Ce qui veut dire que l'événement va être classé et lundi, il n'y aura plus aucune nouvelle. Même si cette personne, ces deux personnes sont toujours à l'hôpital, ils sont souffrants. Ça nous fait comprendre que la société, cette société, elle fonctionne d'une certaine façon. N'attendons pas la justice de ce monde. Et ça doit être une piqûre de rappel. Et la même chose, si c'est arrivé à un religieux d'une autre confession, ça aurait eu une autre ampleur. Ça veut dire que même pour les sentiments humains, ce sont eux qui décident quelle vie a de la valeur et quel sang qui coule n'a pas de valeur. Et si vous lisez les articles de presse, quand on parle de cette tragédie, c'est presque comme si que ce imam a plus tort que le meurtrier. À chaque fois qu'on parle de l'imam controversé avec qui avait eu des propos, et ainsi de suite, mais le meurtrier, c'est, on n'en parle pas. Celui qui a tiré des balles réelles, hein. Il l'a fait pour tuer. C'est juste qu'il n'était pas suffisamment entraîné. Il ne savait pas viser. Et Allah, on va dire, Allah a protégé ces personnes. Le tiers des articles condamne le imam. On vit à l'envers complètement. Et ce sont ces mêmes médias qui nous nourrissent d'informations et ils espèrent que nous voyons le monde à travers leurs yeux. Mais non, détournons-nous de ça. Notre vision du monde, c'est une vision qui doit être plus pure. C'est la vision que le prophète nous a enseignée. C'est avec un cœur, avec un muhabba. Et l'humanisme, on va terminer. Si le peuple français restait attaché aux valeurs d'égalité et fraternité, ben, on serait sur la même longueur d'onde. Parce que dans notre dîn, l'égalité, la liberté déjà, avec l'affranchissement de Bilal, de Rabah, et ainsi de suite, l'égalité, la fraternité, tout ça, ce sont des valeurs que nous avons et que nous retrouvons dans le christianisme et que nous retrouvons dans le judaïsme également. C'est-à-dire que si les gens se raccrochent à leur foi et à leur fitra, ce qu'on appelle l'innéité, ce qui est propre en l'être humain, on n'arriverait pas vers de telles situations. Donc, quand Allah, Rabbul Izza, reproche aux mouchriquin, qu'ont-ils à se détourner du prophète sallam, à aller dans tous les sens alors qu'il les appelle vers la vérité, Allah les condamne, ça doit nous rassurer. Qu'à son époque, alayhi salatu wasalam également, il y avait ce genre de critique et ce genre de comportement, et il nous est amplement suffisant de savoir qu'Allah les condamne. Donc nous, si on ne trouve pas les mots, si on ne trouve pas une tribune où s'exprimer, on ne trouve pas de député ou de je ne sais pas qui pour porter notre voix au Parlement, au Sénat, à l'ONU, ainsi de suite, c'est pas grave. Notre Seigneur a déjà condamné les comportements, ce genre de comportement. D'accord ? Donc ça doit rassurer le mu'min, et le mu'min attend la justice uniquement dans l'au-delà. C'est-à-dire que le comportement du mu'min avec les non-musulmans doit rester un comportement exemplaire. Et plus qu'exemplaire, doit être une invitation vers le haq, une invitation vers l'islam. En aucun cas, parce qu'il y a eu, imaginez, hein, que le meurtrier était de telle tendance ou de telle origine, ben, en aucun cas, il nous est demandé d'avoir un mauvais comportement avec ses proches ou aucunement. Ça, ce serait une grande injustice. Le comportement du mu'min doit être exemplaire et doit être une clé de guider, une clé de hidayah pour son prochain. Et on se dit qu'en finalité, la justice, elle aura lieu dans l'au-delà. Laissons Allah, Rabbul Izzah, celui qui a créé la situation, lui-même apporter la justice dans l'au-delà. Ma tawfiqillah billah. سبحان ربك رب العزة عما يصفون يفزون دعاء بوسو إمام كالله رب العزة بأسماء الحسنى وصفات العلى بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك واستأثرت به في علم الغيب عندك نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أجبت يا رب يا رحمن يا رحيم يا كريم يا أرحم الراحمين إلهنا وخالقنا ورازقنا اللهم اشفهما اللهم اشفهما أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم ذي البأس يا رب الناس نسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيهما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.